Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la revue de presse. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et l'Allemagne ont augmenté la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche sur la biodiversité. Banyuwangi a reçu le prix de l'ONU. L'Indonésien a l'occasion d'être la langue de l'ASEAN. Rencontrer le secrétaire général de l'ONU, la ministre indonésienne des Affaires étrangères espère les bonnes relations entre les pays islamiques. L'Indonésie a demandé au gouvernement australien de réduire le crime de la traite des êtres humains. Hidayat Nur Wahid a confirmé que des écoles coraniques n'enseignent pas le radicalisme. Voici le journal complet. Les experts de l'Institut de recherche de l'entreprise sur la biodiversité et la substance bioactive de l'Allemagne ont visité le centre de recherche biologique en tant que l'Institut indonésien des sciences LIPI à Bogor, Jawa West, le 21 et 22 janvier 2016. La visite est de développer et de trouver l'occasion par l'intermédiaire de la coopération de la recherche bilatérale ou internationale. Le chef de centre de la recherche biologique à cette occasion, Rosihan Ubaidillah, a dit au bâtiment de l'IPI que l'augmentation de la coopération de recherche est de savoir tout le potentiel de la biodiversité possédée par l'Indonésie. En fait, pourquoi les experts allemands voulaient coopérer avec l'IPI? Pourquoi l'IPI est invité également à coopérer avec eux? Parce que l'Indonésie est le pays le plus riche de la biodiversité. En outre, le potentiel de la richesse de la biodiversité indonésienne n'a pas encore été exploité totalement. Même il y a beaucoup de biodiversité inconnue. Ensuite, comment explorer ce potentiel pour être l'industrie qui peut être profitée par les êtres? Pendant ce temps, un chercheur de la biologie de l'IPI, Hari Sutrisno, a déclaré que le développement de la recherche dans de nombreux domaines, à la fois du gouvernement, les académiciens, l'organisation non gouvernementale et les entreprises privées, sera bénéfique pour augmenter l'économie nationale en explorant la biodiversité indonésienne. La régence de Banyuwangi a reçu le prix de l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU, ou NWTO, au 12e forum à Madrid, en Espagne, récemment. La région qui a obtient le surnom de Sunrise de Java a abattu d'autres candidats, à savoir la Colombie, le Kenya et Porto Rico, pour obtenir le prix d'excellence et d'innovation du tourisme pour la catégorie « L'innovation de la politique publique et de gouvernance ». Le secrétaire de la région de Banyuwangi, Jawa Est, Slamet Karyono, a déclaré que les réalisations obtenues ne sont pas seulement pour Banyuwangi, mais pour l'Indonésie. Selon lui, dans les 5 dernières années, les arrivées de touristes à Banyuwangi ont augmenté à 161%, de 650 500 personnes en 2010 à environ 1 700 000 personnes en 2015. Banyuwangi a reçu le prix du NWTO grâce à la réussite du gouvernement local à encourager le tourisme en impliquant de nombreuses parties, y compris les fonctionnaires civils. L'indonésien a l'occasion d'être la langue principale de l'ASEAN suite à la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN, CEA. C'est ce qu'a affirmé le chef de la section de l'éducation de la langue de la Faculté des sciences culturelles de l'Université UNSUT Subandi dans la région Banyumas Java Central vendredi à Purwokerto. Il a dit que cette occasion a été présentée à la réunion de l'Association de programmes d'études. Selon des personnes extérieures de l'Indonésie comme la Malaisie, Singapour et le Brunei Darussalam, il est plus facile d'apprendre l'indonésien, car il n'y a pas de différence entre les êtres et le son. Cela est contraire à d'autres langues. Dans ce cas, beaucoup de gens de Vietnam, de la Thaïlande et de Cambodge ont la tendance de choisir l'indonésien. Même le nombre de locuteurs est également beaucoup. Ainsi, il a ajouté que la possibilité de l'indonésien à devenir une lingua franca dans l'ère de la CEA serait très grand. Lié à cela, il a soutenu si l'indonésien serait la langue principale dans la région de l'ASEAN. Il a dit que le gouvernement oblige des étrangères qui travaillent en Indonésie devraient être capables de parler l'indonésien. Il doit également être effectué par les universités qui offre des programmes internationaux utilisant jusqu'à présent la langue anglaise. Il a dit que la classe internationale en Indonésie devrait toujours utiliser l'indonésien comme langue d'enseignement, malgré qu'il a un programme d'études internationales. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le secrétaire général de Loki, Iyad Amen Madani à Jeddah, en Arabie Saoudite, jeudi heure locale. À cette réunion, Retno Marsudi a exprimé son espoir que Loki peut jouer le rôle dans le maintien de relations harmonieuses entre les pays islamiques. Loki devrait augmenter sa contribution à la coopération entre les pays de l'islam, en particulier dans la propagation de l'islam. Le ministre Retno, à travers un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, cité par Compass.com, a déclaré vendredi que Loki devrait également donner sa contribution dans la création de la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qui est une région avec une population à majorité musulmane. En outre, dans la deuxième réunion, ils ont également discuté le projet de la fondation de bureau régional de Loki à Jakarta. La présence de bureaux de représentation à Jakarta pourrait renforcer les programmes de coopération de Loki en zone de l'Asie-Pacifique et promouvoir au monde islamique que la démocratie et la modernité peuvent aller en harmonie. L'adjoint pour la protection des femmes et des enfants du ministère de la coordination du développement humain et de la culture, Sujat Miko espère que le gouvernement de l'Australie aide l'Indonésie à réduire le crime de la traite des êtres humains. Parce que l'Indonésie est toujours un pays de transit pour la traite des êtres humains à l'Australie. Selon lui, pour éviter le crime de la traite des êtres humains, l'Indonésie, à travers le ministère des Communications et de l'Information, et le ministère de la Coordination du Développement Humain et de la Culture va lancer le plan d'action national sur le crime de la traite des êtres humains avec le ministre de l'Autonomisation des Femmes et des Enfants à Jakarta à la fin de janvier 2016. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, Hidayat Nur Wahid, a affirmé que les écoles coraniques n'enseignent pas le radicalisme et le terrorisme. Donc ce n'est pas nécessaire de soupçonner les écoles coraniques de répandre l'idéologie défiante. Selon lui, le gouvernement devrait tenir les écoles pour la génération actuelle de l'islam modéré, l'islam qui progresse la nation et l'indépendance de l'Indonésie. Comme cité par Antara, Hidayat Nur Wahid à Tangerang a révélé vendredi que certains diplômés de l'école coranique occupaient des postes clés au sein du gouvernement et d'autres institutions de l'État. Ils sont considérés de présenter la bonté que l'enseignement radical. Le vice-président de MPR, Hidayat Nur Wahid, a affirmé que c'était l'image que l'école coranique n'enseignait pas le radicalisme et le terrorisme, mais elle enseigne tout qui apporte des avantages pour l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le journal du jour.
Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par Le Quotidien à Paru à Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec Le Quotidien Kompas qui écrit dans son éditorial sur le train rapide et l'analyse de l'impact environnemental. Les projets stratégiques et le phénoménal peuvent conduire à l'enthousiasme. Ce qui a initié et qui effectue le projet voulait voir la réalisation de ces projets. Cependant, l'émergence d'un discours critique sur l'analyse de l'impact environnemental ou AMDAL sur le projet du train rapide Jakarta-Bandung confirme que toutes les parties doivent toujours obéir au règlement contenant la philosophie de la protection de l'environnement et de prêter attention à la sécurité des utilisateurs du service de train plus tard. Les documents d'AMDAL existent la veille de l'inauguration du développement du train. En fait, dans la commission évaluateur d'AMDAL, il y a les objections de certains experts, les gouvernements locaux et les citoyens. Ces objections sont entre autres les zones sujettes aux catastrophes, l'impact sur les zones de captage d'eau, les aquifères des eaux souterraines, la pollution et le traitement des déchets dangereux toxiques. Selon Kompas, le gouvernement Joko Widodo, qui a un grand esprit de développer les systèmes d'infrastructures et de transport, doit être soutenu. Toutefois, selon ce journal, pour le grand intérêt et la sécurité des utilisateurs, l'obéissance des règles et règlements doit être maintenue. Ce quotidien a affirmé également que le train rapide Jakarta-Bandung devrait être un bon modèle pour le prochain projet majeur en termes de respect des systèmes et des procédures. Pendant ce temps, le journal Sindo, dans son éditorial, a écrit « Lutter contre la mafia de la drogue ». La mafia de la drogue cible les enfants de l'école maternelle et de l'école primaire, ou SD. C'est la dernière tendance qui s'est passée aujourd'hui. Sur la base des découvertes de l'Agence nationale des stupéfiants, BNN, 4 enfants ont devenu les victimes, car la nourriture et des boissons qui ont été consommées et empoisonné la drogue. Le chef de BNN, le commissaire général de la police Budi Waseso, a dit « La mafia de la drogue ciblait délibérément les garçons comme partie de la stratégie de régénération de Marseille. » Ainsi, la part de Marseille de la drogue est plus large, parce que la mafia cible presque tous les segments de leur âge. Ceux qui deviennent une partie du réseau de la circulation illicite des drogues prouvent qu'il n'y a pas de dictionnaire de la moralité ou de la compassion pour eux. Ils ne se soucient pas de victimes en raison de la dépendance et d'autres problèmes à cause de la drogue. Le rôle de la famille et des enseignants est nécessité pour éduquer les enfants et les adolescents sur les dangers de la drogue, de surveiller la socialisation des enfants et des jeunes et de les protéger contre les tentations et les pièges de la drogue. Selon ce quotidien, les agents de police et d'autres organismes d'application de la loi restent certainement une ligne de front dans la lutte contre la mafia de la drogue. Au contraire, Il devrait bien prendre des mesures, la suppression du village de la drogue, sacher les trafiquants de drogue et fermer le lieu de production de drogue. L'exécution morte n'arrêtait pas à l'image d'un régime, mais devient la cohérence juridique et la partie intégrale du pays à faire face à la mafia de la drogue. Nous finissons la revue de presse avec le quotidien Média Indonésia qui s'est plus intéressé à écrire intervention sur le prétexte de la supervision. Ce n'est pas vraiment facile de garder le pouvoir de rester sur le chemin spécifié. Il était tellement risqué pour être dévié. Quand ils sont donnés le pouvoir, ils étaient ivres les intérêts personnels et de groupe. Cette condition est montrée clairement par les représentants du peuple à Senayan. Les députés qui honoraient ont hypothéqué ces honneurs d'effectuer ses fonctions et pouvoirs. Les fonctions et pouvoirs qui devraient être utilisés pour le bénéfice des personnes avaient été effectués en vain. La loi mentionne que le Parlement a trois fonctions, à savoir la législation, la surveillance et le budget. Toutefois, selon ce journal, il n'y a presque aucune fonction qui sont effectuées en optimum. Selon Média Indonésia, la loi a souligné que le Parlement surveille la mise en œuvre de la loi, le budget de l'État et des politiques gouvernementales. Ce sont les fonctions noblesse qui doivent être effectuées dans la façon et le but noble. Il est très inapproprié de faire devenir la surveillance comme le prétexte pour presser, juger, intervenir le gouvernement pour les intérêts personnels et de groupe. Serviteur, c'était la revue de presse de la Voix de Mizi à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 23 janvier 1919. Le Parti fasciste d'Italie a été fondé. Le Parti fasciste du dirigeant de Benito Mussolini a fondé à Rome le 23 janvier 1919. La formation de ce parti a été fondée sur le désir de réorganiser la règle empire romain. Le groupe dont les membres sont toujours vêtus de noir ont une dictature de la doctrine qui ne tolère aucune forme de liberté. En 1922, Mussolini et ses associés le contrôle de la ville de Rome. Il se fait lui-même la règle de l'Italie avec la poste de premier ministre. Il a ensuite lentement élargi sa puissance dans toute l'Italie. Cependant, en 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, Mussolini a été capturé par des groupes nationalistes italiens et finalement mis à mort par ce groupe. On continue le 23 janvier 1950, le coup d'État de la Légion Ratu Adil à Bandung, Indonésie. Les événements de la Légion Ratu Adil au coup d'État 23 janvier étaient un événement qui a eu lieu le 23 janvier 1950, à laquelle le groupe de milices Légion de Ratu Adil, ou APRA, qui est sous la direction de l'ancien capitaine de la Royal Netherlands Antilles ou CNIL Leger, l'armée royale des Indes néerlandaises Raymond Westerling, ancien commandant des postes spéciales troupes aux forces spéciales de l'armée coloniale. Ils sont entrés dans la ville de Bandung et tout ce qu'ils racontent militaire en uniforme. Cette action de la foule avait été planifiée plusieurs mois plus tôt par Westerling et même était connue par le meilleur chef militaire des Pays-Bas. Après, le premier soulèvement a eu lieu après la souveraineté indonésienne reconnue par les Hollandais. résultat de la conférence de la table ronde qui produisent une forme d'État en Indonésie sous le nom de République fédérale d'Indonésie unie. Entre 1923 janvier 1950, le Parlement d'Israël Knesset a annoncé que Baitul Maqdis comme la capitale d'Israël. Deux ans après que les Juifs ont proclamé la fondation du pays illégalement, le Parlement de la Knesset israélienne a annoncé Baitul Maqdis ou Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette annonce obtenait immédiatement une réaction forte des pays arabes et musulmans comme noble sanctuaire et l'un de la ville sainte des musulmans n'a jamais défini une prière de Mecque des musulmans. En raison de l'opposition généralisée à la tentative israélienne pour obtenir la reconnaissance de ces de pays du monde en matière de transfert de la capitale de Tel Aviv à Baitul Maqdis, il ne reçoit pas une réponse comme prévu. Les Pays-Bas, les pays du monde sont réticents à se déplacer aux ambassades de Tel Aviv à Baitul Maqdis et jusqu'à maintenant, les capitales d'Israël sont restées Tel Aviv. Chers auditeurs, c'était notre histoire aujourd'hui, ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, on va écouter maintenant la mise au point intitulée « Le gouvernement a fondé le Comité national de l'économie de l'industrie ». Mercredi, le président Jokowi a nommé Sutrisno Bahir, un homme d'affaires qui est aussi un politicien du Parti de mandat national PAN, en tant que président du Comité national de l'économie et de l'industrie, abrégé CAIN, qui vient d'être fondé. La tâche de ce comité est de soutenir le plan du président pour augmenter l'industrie nationale avec l'utilisation de ses propres ressources naturelles du pays. Dans son discours, le président a déclaré que la fondation de ce comité visait à aider à faire de la politique économique plus globale. Le comité se compose de 20 économistes, les hommes d'affaires et des universitaires. Selon le président, la combinaison permet une meilleure planification à court, moyen et long terme. Ils sont, entre autres, le président de l'Association des hommes d'affaires indonésiens, Haryadi Sukamdhani, un homme d'affaires sud-amérique, un économiste Henry Saparini et l'ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle Arif Budimanta. Dans le passé, l'ancien président Susilo Bambang Yudhoyono a également établi le Comité économique national CAN. Quelle est la différence entre ces deux comités? Le président Jokowi a expliqué que CAN se concentre plus sur l'industrialisation en aval qui fournit le soutien à la croissance économique. Le président Jokowi a souligné les ressources naturelles à ce jour en Indonésie, en particulier le secteur minier, ont été exportées sous forme de produits bruts. Il n'était pas cher et a seulement donné une petite contribution à l'économie nationale. Par conséquent, il nécessite l'industrialisation en aval et l'exportation de produits semi-finis ou produits finis, si bien qu'il y a la valeur ajoutée. Une chose similaire a également été exprimée par le président de CAIN, Sutrisno Bahir. Selon lui, le comité de la période précédente est plus orienté au côté macro de l'économie, alors que CAIN va aller plus loin, à savoir le côté industriel. Le plan d'établir le Comité national de l'économie et de l'industrie a été discuté depuis septembre l'année dernière. Après que Sutrisno Bahir ait rencontré le président, il a déclaré aux journalistes que le comité fournira l'entrée et le point de vue spécifique sur les domaines de l'économie et de l'industrie au président. Toutefois, il a souligné que cette institution n'est pas un exécuteur, mais elle fournit seulement des conseils. Pendant ce temps, l'exécuteur des politiques reste à chaque ministère concerné. D'autre part, le président Jokowi espère qu'avant d'effectuer ses devoirs, ce comité peut fournir des recommandations concrètes qui peuvent être exécutées immédiatement. Chers auditeurs, c'était la mise au point.
Radio République Indonesia, Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le village traditionnel Senaru à Nusa Tenggara Ouest. Outre de Bali, il y a beaucoup de touristes étrangers qui visitent l'île de Lombok, notamment tiga gili, tels que trois îles exotiques à Lombok Nord, tels que Gili Air, Gili Meno et Gili Trawangan. En fait, il y a encore beaucoup d'intérêts touristiques à Lombok Nord, Nusa Tenggara Ouest, pour être visités, notamment les villages traditionnels spécifiques de Lombok. L'un d'entre eux est le village traditionnel Senaru, situé au sous-district de Bayan. Le village traditionnel Senaru se trouve au village de Senaru, au sous-district de Bayan, la région de Lombok Nord. En véhicule loué, on a besoin d'environ 2 heures de la ville de Mataram pour atteindre ce village. Et en véhicule public, on a besoin de 3 jusqu'à 4 heures. Senaru se trouve au pied du mont Rinjani, environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce village devient le premier poste de l'ascension du mont de Rinjani. Dans ce village, l'air est frais, on peut voir une rangée de maisons traditionnelles bien alignées. La situation au village traditionnel de Senaru est totalement traditionnelle. On encore prend l'eau du puits de l'eau, il n'y a pas de télévision ni la voix de la musique. Les maisons à Senaru sont la majorité en bambou, sauf la voûte qui est en roseau. La fondation de maisons est au sol ou aux roches. À ce village, il y a des maisons ayant 4 pôles, nommées sekepat. Il y a aussi celles ayant 6 pôles, nommées sekenem. De plus, il y a aussi berukak ou gazebo. Berukak se fonctionne comme une place pour accepter des invités. Berukak a une forme de maison sur pilotis. À ce village, vous pouvez aussi visiter une ancienne mosquée nommée la mosquée de Bayan. Une telle ancienne mosquée est entourée par les tombes des missionnaires musulmans à Bayan au passé. la voûte de cette mosquée est en bambou. Cependant, le sol est fait en argile. 200 mètres de la mosquée, il y a une maison traditionnelle nommée Gubuk Karang Bajo. Une telle maison est habitée par les figures importantes de ce village. On peut aussi jouir de la beauté naturelle autour du village, telle que la cascade de Tiukalep et Sindang Gila. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie, où que vous soyez, voici le magazine de Warna-Warni ou la couleur indonésienne, édition du dimanche. Dans cette édition, nous vous invitons à connaître la technologie et le style de vie en Indonésie. Le monde d'aujourd'hui est en effet très fondé sur l'existence de la technologie. Différents types d'équipements sophistiqués sont souvent utilisés dans la vie routine de société. La population de l'Indonésie ayant plus de 200 millions de personnes et la plupart d'entre eux sont consommateurs de la technologie actuelle. De différents types de matériel sophistiqués peuvent être utilisés partout par le peuple indonésien avec de telles ou telles fonctions comme des gadgets, portables, ordinateurs ainsi que la disposition d'Internet. Tout a déjà changé la vision de mode de vie d'un des Indonésiens actuels. Avant le gadget peut être utilisé partout, le peuple de l'Indonésie est souvent passé du temps avec rassemblé avec ses familles ou ses amis et vers bavardage. Mais cette habitude a progressivement transformé de parler à travers leur gadget. Avant le portable se présentant en Indonésie, une personne ne sent rien manquer lorsqu'elle ne porte pas de ce téléphone mobile. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour le public d'apporter le portable partout où ils vont. Même quand on sort avec des amis et la famille pour montrer le gadget. La dépendance à cette technologie est de plus en plus visible. Ce comportement est très différent lorsque la technologie avancée ne peut être exercée que par la minorité. Pour la société urbaine, la technologie et le gadget sont importants pour avoir. Pour les communautés rurales, la technologie est une chose qui peut fournir plus de connaissances pour augmenter le nombre de récoltes et leur bétail. La différente fonction, mais a le même besoin. C'est le gadget ou la technologie. Pour soutenir le gadget sophistiqué, il faut certainement posséder l'Internet qui est facile, pas cher et efficace. Le développement technologique est si rapidement en Indonésie. Tout fait également la valeur des investissements de télécommunications de plus en plus nombreux. Même récemment, le ministre des Télécommunications et des Technologies d'Information indonésien, M. Rudiantara, a eu le succès de faire venir la société de téléphones mobiles appartenant de la Chine d'investir en Indonésie. Mais il faut que la présence de la technologie ne change pas notre culture originale. La technologie est pour aider notre travail et non pas pour changer notre habitude et attitude ainsi la vie quotidienne. Alors, la sagesse en utilisant la technologie est la seule solution pour les gens à aller et avant pour développer la grande nation au futur. Chers fidèles amis, c'était La Couleur Indonésienne, édition dimanche. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique avec moi, Yubi Suryanto. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 900-200 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, la Voix d'Indonésie présentera une chanteuse appelée Cheryl Senafia. Son premier album intitulé Cheryl Senafia, publié en 2013, avec le premier single Demi Aku. Afin d'introduire plus loin, on écoute Demi Aku de Cheryl Senafia.
Menjadi seseorang yang wah-wah-wah. Aku gila tak bisa menerima keadaan karena ku terlalu sayang dirimu. Tak bisa menghindar dari kamu. Ku janji sekarang
tapi
Vous avez écouté tout à l'heure la voix de Cyril Senafia avec sa chanson de Miyako, une chanteur qui a l'âge de 19 ans, possède beaucoup de talent dans l'industrie de la musique, entre autres, comme une chanteuse-compositeur, jusqu'à jouer les instruments de musique. Dans le monde de divers instruments, elle était une actrice et présentatrice de l'art de la télé privée. Elle est souvent à chanter et jouer la guitare en direct dans quelques programmes talk-show à la télé. Avec la compétence de jouer instruments de musique, elle a fait son propre album lorsqu'elle était en avant. Une fois terminé, son père a essayé de donner à certaines maisons de disques. Malheureusement, à cause de toutes les chansons de l'album en anglais, les maisons de disques l'ont refusé. Le résultat ne fait pas Cyril décourager jusqu'à ce qu'il a finalement lancé officiellement l'album en 2013. La carrière de Cyril n'était pas aussi lisse et brillante comme aujourd'hui. Maintenant, elle a été inclue dans une liste de nominations. Chers auditeurs, on écoute sa chanson intitulée « Bla, bla, bla ».
Berapa menit saja? Coba kau dengarkan sejenak diriku dengan hatimu. Jangan kau egois begitu. Coba. Coba dengarkan bla 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 dariku. Sampai kapankah kita begini? Cuma kamu yang bicara tanpa akhir. Mungkin aku harus menunggu telingaku dan mulai cuekin semua ocehanmu. Coba kau dengarkan sejenak diriku dengan hatimu. Jangan kau egois begitu.
Vous avez écouté tout à l'heure la voix de Cyril Senafia avec sa chanson Bla Bla Bla. Le troisième single de Cyril publié la fin du mois de mai 2013. Il a admis que cette chanson a été inspirée de l'histoire privée qui raconte un homme dans le passé. Un amant qui est égoïste, qui raconte toujours les mêmes. Dans cette composition, il a donné un concept aux maisons des disques et bien accueilli et Selable a suggéré que Cyril collabore avec Nidji pour la meilleure composition. Autre Nidji, David du groupe Noah, a aussi pris le rôle dans l'album de Serge Senafia. David a contribué une chanson intitulée « Rasa Sunyi ». Cette chanson raconte du sentiment de tranquille aucune personne qui a aimé. Le message qu'il veut délivrer dans cette chanson est inviter les auditeurs de ne pas prolonger dans le sentiment de tranquille lorsque abandonné par son amant. Chers auditeurs, afin de terminer notre programme ce soir, on écoute deux chansons telles que « Rasa Sunyi » et « Kita Berdua ». Bonne écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
tapi ku tahu dirimu tetap di hatiku. Candamu,
candamu
memang biasa, namun entah mengapa aku menyukainya. Mereka menertawai kita, mereka bilang kita berbeda, tetapi kau dan aku kan selalu bersama. Kita lakukan hal yang luar biasa, berbeda.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Seseorang yang wah-wah-wah. Aku gila tak bisa menerima keadaan, karena ku terlalu sayang dirimu. Tak bisa menghindar dari kamu. Ku janji sekarang
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id. Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.